Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question.
Les effronter.
Avec Geneviève Pettersen. Cube Radio.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré tout ça. Hier, c'était une pas bonne journée hein, concernant les annonces du gouvernement Legault. On apprenait qu'il y avait une hausse de cas de personnes atteintes de la COVID-19. On annonçait aussi la fermeture de tous les commerces jugés non essentiels. Et là, bien entendu, François Legault ainsi que ses ministres vont s'adresser à nous dans quelques instants. On ira les rejoindre lors de leur point de presse quotidien. Mais avant, dans un document consulté par TVA Nouvelles, la Direction régionale de la santé publique de Montréal indique qu'aujourd'hui, plus de 300 cas de COVID-19 qui auraient été observés dans la métropole, ce qui nous amène à croire qu'il y aurait une transmission communautaire. Ça fait déjà quelques jours qu'on en parle. Arruda lui avait fait référence à tout ça, évidemment, depuis quelques jours, mais là, ça semble se confirmer de plus en plus. On les voit qui s'avancent, le premier ministre flanqué d'Horacio Arruda. Il nous parlera sans aucun doute de ces 300 cas de transmission de la COVID-19 par transmission communautaire. Le bilan de la métropole qui a franchi la barre des 300 cas, donc Montréal qui devient la ville la plus touchée. On faisait état de 275 cas dans la métropole jusqu'à maintenant. Donc, les choses continuent d'évoluer. Je sais que ça fait peur. Hier, je lisais les commentaires sur Facebook. Les gens sont de plus en plus anxieux. Il faut quand même se rappeler à l'ordre nous-mêmes. C'est ce que j'ai envie de dire, peut-être en prenant un pas de recul, en essayant aussi de décrocher peut-être, je sais que ça va sembler paradoxal ce que je vais dire, là, mais des nouvelles en continu, c'est peut-être pas nécessaire d'écouter 24 heures sur 24 les nouvelles en continu, mais de faire un point de temps en temps, une fois par jour avec des sources fiables, c'est une bonne chose. On s'en va tout de suite retrouver François Legault en conférence de presse.
Services sociaux, Mme Danielle Mécan et du directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole.
Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Avant de faire le bilan de la journée, je voudrais dire quelque chose aux Québécois. D'abord, je veux vous dire que je comprends que certaines soient stressés. C'est normal. Parce que habituellement, on n'a pas des enfants à la maison. Les aînés reçoivent de la visite, là, en reçoivent pas. Je sais qu'il y a des travailleurs qui ont perdu leur emploi puis se demandent quand et s'ils vont retrouver leur emploi. Je sais qu'il y a des entrepreneurs aussi qui ont bâti des entreprises toute leur vie puis que là, ils se disent, est-ce que j'ai tout perdu ce que j'ai bâti? Donc, c'est normal d'être stressé. On va s'occuper de ces problèmes-là autant que possible dans les prochaines semaines. Mais la priorité pour les trois prochaines semaines, c'est d'éviter la contagion. C'est éviter de propager davantage ce virus. Donc, on a pris des mesures fortes, des mesures rapides, justement pour essayer que ça dure le moins longtemps possible. Donc, je vous comprends. De vivre des situations stressantes, c'est juste normal. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ça, c'est temporaire. On n'est pas pris là-dedans pour toujours, là, c'est temporaire. Puis plus on va agir avec force, plus vite on va pouvoir sortir de la situation. Donc, le bilan de la journée, on a maintenant 1013 cas confirmés, une augmentation de 385. On a 67 personnes hospitalisées, une augmentation de 22, 31 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 11, et on reste toujours à 4 décès, donc aucune augmentation. 2500 personnes qui attendent les résultats d'un test au cours des deux prochains jours, 12200 déjà qui ont reçu un test négatif. Bon. Je veux revenir sur les mesures qu'on a annoncées hier pour fermer tous les commerces, toutes les entreprises qui offrent pas des services ou des biens essentiels. Je veux dire, aux dirigeants d'entreprise, aux entrepreneurs, que je comprends votre frustration. On a eu beaucoup d'appels hier. On est en train d'ajuster la liste et, entre autres, je pense à certaines entreprises manufacturières comme les alumineries. Je comprends très bien qu'il faut garder une certaine activité minimum pour que ces usines-là puissent repartir le 14 avril. Donc, on comprend ça, puis on accepte ça. Donc, je veux juste vous dire, là, je comprends que plusieurs sont frustrés, mais en même temps, c'est important de répéter pourquoi on fait ça, pour protéger la vie de beaucoup de personnes. Donc, ce sont des mesures qui sont dures pour les entreprises. C'est certain que ça va faire mal à l'économie, ça va faire mal aux entreprises. On va s'occuper autant que possible des entreprises par la suite. On va regarder avec certaines compagnies manufacturières les activités minimums que vous pouvez garder pour être capable d'être prêt à repartir quand ça va être le temps de repartir. Hier soir, j'ai eu une conférence téléphonique avec M. Trudeau et avec les premiers ministres des autres provinces. Je suis intervenu sur trois sujets. Premier sujet, j'ai répété à M. Trudeau que la priorité des priorités, c'est l'équipement médical. Surtout l'équipement pour faire des tests. Il faut être certain qu'on ait assez d'équipement dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour continuer, pour faire plus de tests auprès des personnes. Ça, c'était le premier sujet. On travaille ensemble sur les approvisionnements. Deuxième sujet, parce qu'on a beaucoup de questions, les chèques d'assurance-emploi qui seront donnés à ceux et celles qui ont perdu leur emploi, incluant les travailleurs autonomes, qui habituellement n'ont pas le droit à l'assurance-emploi, qui là vont avoir le droit à un montant. Bon, M. Trudeau me dit que les chèques vont être disponibles le 6 avril. Ça, c'est dans deux semaines. On est en train de regarder de notre côté, du côté du gouvernement du Québec, ce qu'on peut faire pour les personnes qui vont avoir besoin de liquidités avant le 6 avril. Je comprends là qu'il y a le 1er avril, il y a la nourriture à acheter, donc certaines personnes ont perdu leur emploi, n'ont pas de montant d'accumuler, donc on travaille là-dessus. Bon, le troisième sujet que j'ai abordé avec M. Trudeau, c'est la loi fédérale sur les mesures d'urgence. Bon. J'ai dit à M. Trudeau que, selon moi, c'est prématuré d'adopter cette loi-là. Et j'ai dit à M. Trudeau que, dans tous les cas, c'est important que le Québec garde toute la flexibilité, puisse choisir rapidement toutes les mesures qui sont appropriées à la situation du Québec. Je comprends que dans une situation idéale, on pourrait prendre le temps de tout uniformiser dans toutes les provinces, mais la situation est différente d'une province à l'autre, puis je pense que c'est important que le Québec garde toute la marge de manœuvre, toute la flexibilité pour mettre en place des mesures rapidement. Donc, c'est ce que j'ai dit à M. Trudeau. Maintenant, je reviens aux consignes de base. Là. Peut-être qu'il y a des gens... j'ai vu ça sur les médias sociaux, qu'il y avait peut-être... c'est moi qui s'est probablement là, mal exprimé, donc je vais être très clair. Tous ceux qui ne travaillent pas dans les services essentiels doivent rester à la maison. Ça, c'est clair. Mais ils peuvent sortir, un, bien sûr, pour aller chercher de la nourriture, deux, aider des personnes de 70 ans et plus à aller chercher de la nourriture pour eux autres, pour les personnes de 70 ans et plus. Et c'est possible d'aller prendre une marche aussi. C'est même bon pour la santé, bon pour le moral. Il faut juste rester à 2 mètres. Ceux qui ont les anciennes mesures, là, c'est 6 pieds, ça, 2 mètres des autres personnes. Mais vous pouvez aller prendre une marche. Il y a une restriction dans les résidences de personnes âgées où on demande, quand vous sortez, d'être supervisé. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a des personnes qui habitent des résidences de personnes âgées qui ont peur quand ils voient d'autres résidents sortir. Ils ont peur que ces personnes-là ramènent le virus dans la résidence. Donc, c'est pour rassurer tout le monde qu'on dit à partir de maintenant, être supervisé si on fait des sorties. L'autre point qui est important de mentionner, c'est pas le temps de faire des soirées, des soupers avec votre beau-frère, votre grand-père, vos amis, c'est pas le temps. On se reprendra une fois que ça sera fini, mais là, c'est pas le temps de faire ça. C'est la pire chose qu'on puisse faire. Je termine en, encore une fois, remerciant tous les Québécois. On voit qu'il y a beaucoup de solidarité. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent aussi où ils peuvent aller aider. Et Jean Boulay est en train de préparer un site web, un portail web, où on va pouvoir mettre dans chaque région les organismes qui manquent de bénévoles, puis où les gens qui veulent être bénévoles vont pouvoir s'inscrire. Donc, on devrait, au cours des prochains jours, être capable de mettre ça en place, là, donc très rapidement. Puis, bon, c'est impressionnant de voir toute la solidarité des Québécois. Puis moi, je vous remercie. Puis je termine avec la même phrase que je répète depuis le début. Plus vite on va réduire les contacts physiques, plus on va réduire la contagion, plus on va sauver des vies, puis plus vite on va revenir à une vie normale. Donc, je vous remercie infiniment pour votre grande collaboration. Je compte sur vous et, comme le dit un organisme, là, ça va bien aller.
Le premier ministre Legault qui fait référence à cette initiative de l'arc-en-ciel, ce hashtag, ça va bien aller. Des enfants qui s'amusent à dessiner des arcs-en-ciel, à coller ça dans les fenêtres en guise de solidarité. Et puis aussi pour remercier tout le personnel soignant qui travaille d'arrache-pied depuis le début de cette crise-là pour soigner les gens, faire les tests. Avant le bilan habituel, on a fait allusion au stress. J'en parlais en début d'émission. Le stress qui est monté d'un cran hier, évidemment, parce qu'on a eu des résultats négatifs. Positif, peut-être plus qu'on le pensait. On apprend aussi qu'il y a de la contamination communautaire. Et vraiment, hier soir, sur les médias sociaux, je l'ai vraiment senti, puis je pense que je ne suis pas la seule. Le stress était à son apogée. Le premier ministre Legault qui nous dit « Je le comprends, votre stress, je le comprends, le stress des Québécois, c'est normal. Il y a beaucoup de monde qui ont perdu leurs emplois en ce moment. » Donc, ça s'ajoute au stress physique qu'on vit déjà. Beaucoup de personnes qui se demandent comment ils vont arriver à payer leur loyer, comment ils vont arriver même à faire l'épicerie. On nous promet qu'on va s'occuper de ces problèmes-là dans les prochaines semaines. Mais vraiment, c'est important de rappeler qu'en ce moment, la priorité, c'est d'empêcher la propagation. C'est ce qu'on fait dans les 3 prochaines semaines. C'est pour ça que le Québec est fermé, que le Québec est sur pause. Hein. C'est de façon à être en confinement le moins longtemps possible. Puis je pense que c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue quand on est angoissé. C'est qu'en ce moment, on fait ça pour pouvoir ressortir plus rapidement. C'est temporaire. Parlons du bilan maintenant. On en est rendu à 1013 cas confirmés. C'est une augmentation de 385 cas depuis hier. On a 67 hospitalisations. 31 personnes sont aux soins intensifs. Pour ce qui est des décès, le nombre de décès est stable. On en est toujours à 4. Donc, il n'y a aucune augmentation à ce niveau-là. Et on a eu 12 200 résultats négatif. Bon, suite aux annonces d'hier, il y a plusieurs entreprises grandes et petites par ailleurs qui se sont montrées inquiètes, qui se sont montrées frustrées aussi. Les manufactures, les alumineries se demandaient est-ce qu'on va être obligé d'arrêter complètement nos opérations et si c'est le cas, comment va-t-on faire pour reprendre nos fonctions au mois d'avril? Le premier ministre qui nous dit, écoutez, on comprend cette problématique-là. On vous laissera opérer de façon réduite. Maintenant, à savoir qu'est-ce que c'est opérer de façon réduite, combien de personnes on va permettre, ce sera des enjeux qui mériteront d'être clarifiés. Et bien entendu, François Legault le dit, personne ne s'en cache, là. Oui, ça va faire mal à l'économie. Ça va faire vraiment mal. Mais on n'a pas le choix. Bon. Conférence téléphonique hier entre François Legault, Justin Trudeau et les autres premiers ministres, ceux des autres provinces, On nous dit qu'on a abordé trois sujets, c'est-à-dire que François Legault a abordé trois sujets sur la situation au Québec. On a tenu à souligner à M. Trudeau que la priorité, ça doit être et continuer à être l'équipement médical. Il faut avoir assez d'équipement, il ne faut pas en manquer. On a discuté aussi des fameux chèques d'assurance emploi. On voyait les gens faire la file au bureau de chômage. Des gens aussi qui s'inquiètent à savoir quand est-ce que l'argent sera disponible. On manque de liquidité, on le sait. Les chèques seront disponibles le 6 avril. C'est ce que Justin Trudeau a promis. Le gouvernement du Québec regarde en ce moment qu'est-ce qui serait possible de faire pour ceux qui sont en manque de liquidité, c'est-à-dire pour ceux qui auraient besoin d'argent. Avant le 6 avril, il y aura des choses qui seront faites. Et on est revenu sur la loi fédérale sur les mesures d'urgence parce que c'est une chose qui fait très, très peur aux gens de perdre leurs libertés individuelles. M. Legault qui a tenu à souligner que dans sa discussion avec Justin Trudeau, il a dit que selon lui, c'était prématuré d'adopter cette loi, donc la loi fédérale sur les mesures d'urgence. Et dans tous les cas, il a tenu à souligner que c'est important que le Québec garde en quelque sorte la flexibilité de choisir, garde toute sa marge de manœuvre pour adopter les mesures appropriées à la situation du Québec. Donc, il a vraiment insisté pour dire qu'au Québec, on avait une situation particulière qui était peut-être pas similaire à celle des autres provinces, et donc, en ce sens-là, c'est bon de garder notre autonomie. Et on revient sur la confusion d'hier, là, cette anxiété, parce que, bon, peut-être qu'hier, le message n'était pas clair là, quand on a parlé des fermetures majeures et étendues un peu partout. Beaucoup de personnes qui pensaient qu'on ne pouvait plus sortir du tout, là, c'est-à-dire qu'on n'avait plus le droit de sortir de la maison. C'est pas ça. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut plus sortir pour rien. OK? On peut continuer à prendre des marches, même que c'est bon là, pour notre santé mentale aussi. On peut sortir chercher de la bouffe à l'épicerie, là. On fait pas exprès pour y aller trois fois par jour. On fait pas exprès non plus pour y aller quatre fois par semaine. On essaie d'y aller le moins souvent possible. Et on peut sortir aussi pour aller aider les personnes qui ont 70 ans et plus. Il faut juste rester à 2 mètres. C'est quand même assez simple. Donc, on peut sortir. Je sais que c'était une inquiétude qui était partagée par plusieurs. Confusion. Hier, et on nous répète, et on nous répète encore, que c'est pas le temps de faire des parties, de faire des soupers. Faites ça en FaceTime. C'est genre la pire chose que vous pouvez faire en ce moment, là. Vous réunir entre amis, faire des soupers, on aura l'occasion de le faire plus rapidement si on suit les règles de confinement. Et bon, hier, on demandait aux Québécois, ceux qui étaient disponibles, d'aller prêter main forte aux organismes communautaires parce qu'on le sait, les bénévoles majoritairement sont âgés de plus de 70 ans. Beaucoup de Québécois ont répondu à l'appel tellement qu'on met en place un site web pour ceux qui veulent aider. Donc, selon votre région, vous pourrez aller voir quels organismes ont besoin d'aide. Bon, parlons de commerce essentiel, parce que, bon, hier, la SAQ, mon Dieu, était au cœur de toutes les discussions. J'ai fait un texte, je posais la question, est-ce que la SAQ est un commerce essentiel? Et vraiment, là, vraiment, on le voit, la question de la SAQ est très, très émotive. Et je peux comprendre, parce que moi, je suis comme vous, là. J'aime bien prendre un petit verre de vin de temps à autre. Puis depuis le début de cette crise-là, je dois vous avouer que le petit verre de vin occasionnel, peut-être moins occasionnel. On dirait que le soir, là, ouf, j'arrive chez nous, puis j'ai comme un petit envie de m'ouvrir une bouteille. Je dis pas que je passe au travers, mais je pense que tout le monde en ce moment, on boit plus qu'à l'habitude. Peut-être que ça serait bon de se questionner par rapport à ça aussi, comment on fait face à l'adversité, comment on s'endort finalement avec l'alcool. Puis, tu sais, vraiment, moi aussi, là, je suis allée à la SAQ. Moi aussi, j'ai fait des réserves, des grosses réserves, là, pour vrai. Mais hier, je parlais avec la présidente du syndicat des employés. Puis, tu sais, les employés en ce moment sont inquiets, là, sont un peu paniqués parce qu'il y a du monde qui, avant d'aller se placer en quarantaine, vont faire leur provision touche à tout. Et elle me l'a bien dit, on n'a pas le temps de laver les bouteilles, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Donc, vraiment, les employés se sentent en danger. Et là, hier, on se demandait est-ce que la SAQ, est-ce que les SAQ vont rester ouvertes par rapport à ces mesures-là des entreprises essentielles? J'aurais eu tendance à penser que non, mais oui. Puis il y a plusieurs raisons. Là, plusieurs personnes m'ont souligné qu'on ne voulait pas gérer des problèmes de dépendance. Puis ça, c'est vrai. Là. Il y a des gens qui ont besoin de la SAQ. Puis je sais, c'est épouvantable à dire, là, mais s'ils n'ont pas leur alcool, ils vont tomber en delirium tremens. Puis delirium tremens, là, je veux juste vous dire, là, on peut se ramasser à intuber quelqu'un. Tu sais, on n'a pas besoin de ça en ce moment. Il y a des gens qui se servent de l'alcool et des produits de la SQDC, par ailleurs, comme un calmant. En même temps, j'ai envie de dire, on n'a pas dit qu'on allait interdire la vente de l'alcool. Là. Moi, je pense que ça serait une bonne chose en ce moment qu'on ferme les planchers de vente. Ne serait-ce que de certaines succursales. À Montréal, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succursales, la SAQ. On pourrait en fermer une coupe, selon moi. Ça serait vraiment pas un problème. Et par ailleurs, des suites de cette annonce-là d'hier que les magasins de la SAQ allaient rester ouverts, il y a plusieurs employés qui ont décidé de ne pas se présenter au travail, qui ont décidé de rester chez eux à leurs frais parce qu'ils ont peur. Et je les comprends. Je les comprends parce qu'ils sont en contact avec les gens. Les gens ne font pas attention. Ils s'exposent à un risque et ce sont pas, c'est pas un service essentiel de la SAQ. Je m'inquiète vraiment de notre dépendance à l'alcool. Et par ailleurs, la Maison Jean Lapointe aussi, puisqu'ils m'ont envoyé un message ce matin. Ils ont fait parvenir une lettre à plusieurs personnes pour parler de la situation hors du commun qu'on vivait en ce moment, une situation qui amène son lot d'inquiétudes. Et c'est sûr que ça augmente les comportements de consommation. Et je pense qu'il faut être vigilant comme société par rapport à tout ça. Donc, je vais répéter un slogan vraiment très galvaudé, mais peut-être qu'en ce moment, là, on devrait modérer nos transports un peu, se lever le coude un peu. Parce que si je me fie à ce que je vois autour de moi, là, on est une coupe à essayer d'oublier notre anxiété collective en buvant le soir. On devrait peut-être arrêter. Puis je pense pas qu'on va mourir son mais la pédale douce sur la vente au détail à la SAQ. On peut commander en ligne. Oui, je le sais, là, c'est long. Mais quand même, ça coûte 12 $ les frais de livraison. Là, ils seront remis à des organismes. La SAQ comprend très bien qu'en ce moment, on ne peut plus assurer des délais de livraison, mais c'est toujours bien mieux que rien. Et je le répète, on peut acheter de l'alcool dans les dépanneurs, dans les épiceries. Donc, pour la question des dépendances, oui, mais non.
De 13 à 15, les effrontés. Cube Radio.
Je parle tout de suite avec Diane Falardeau, qui est infirmière et aussi propriétaire d'un garage. Et la raison pour laquelle on lui parle, c'est parce qu'elle aurait eu vent d'une situation des esthéticiennes qui accueilleraient encore, malgré l'ordre de fermeture des commerces non essentiels, donc des esthéticiennes qui accueilleraient des clientes chez elles, donc dans leur maison, malgré les risques de contamination. Et ça, ça le fait bondir. Bonjour, Diane Falardeau.
Bonjour.
Écoutez, quand même, vous avez communiqué avec moi pour me souligner cette situation qui, ma foi, m'apparaît fort préoccupante. Comment vous avez appris qu'il y avait, en quelque sorte, des cliniques de soins esthétiques clandestines qui étaient en train de s'installer un peu partout dans différentes régions du Québec?
Ayant été propriétaire d'une clinique moi-même, j'ai encore à ma possession un laser. Et que,
pour l'épilation,
Non, ben c'est plus pour au niveau de l'amincissement, c'est plus la radiofréquence, c'est fractionné pour le raffermissement de la peau. C'est un appareil qui est quand même très dispendieux, que j'ai pas voulu me départir lorsque j'ai fermé ma clinique. Et ça fait un an passé que j'ai pas utilisé cet appareil-là, et étant en confinement, n'est-ce pas, à la maison, j'ai décidé de me chouchouter, donc j'ai voulu ressortir mon appareil qui
pour
s'est
vous-même.
Avéré... Oui, parce qu'on peut se traiter nous-mêmes là, avec ce genre d'appareil-là facilement. Donc, j'ai paniqué un petit peu à la valeur de cet appareil-là. Elle ne fonctionnait plus très bien là, dû à mon erreur. Donc, j'ai communiqué vendredi avec différents endroits qui pourraient peut-être la réparer. Et sur le coup, j'ai une compagnie qui m'a dit, ben venez me l'apporter, Mme Falardeau, mais avec les mesures de sécurité, vous allez devoir laisser l'appareil dans un sas. On va passer le papier par une petite fente et etc. J'ai dit bon ben parfait, c'est sécuritaire, parfait, je vais aller vous l'apporter mardi. Donc ce matin, je me renseigne pour savoir que je peux bel et bien aller porter l'appareil. Et la dame, entre autres, me confirme. De toute façon, j'ai dit, est-ce que vous fermez ce soir à minuit? Est-ce que tu sais, elle dit non, elle dit nous, on reste ouvert pour les hôpitaux, etc. Donc elle m'a dit, de toute façon, il y a plusieurs esthéticiennes qui sont ouvertes encore. J'ai dit, pardon? Elle dit, oui. Elle dit, faut bien qu'ils gagnent leur vie. Ils font ça à la maison maintenant. J'ai dit, c'est parce que, êtes-vous consciente de ce que vous êtes en train de me dire?
Elle n'avait pas conscience que c'était un geste complètement déplacé en ce moment.
Exactement. Là, je lui ai dit, est-ce que vous comprenez un peu la façon que les esthéticiennes travaillent aussi? Un contact humain, ils sont à même pas un pied du visage. Enlever des points noirs, il n'y a pas d'urgence là, je veux dire. Là, elle me dit, ben oui, mais là, ces gens-là vont mourir de faim. Je dis, c'est parce qu'on est tous en train de perdre beaucoup d'argent. J'ai un commerce, entre autres, sur le plateau, un garage, là, Rachel Auto, puis on est en ce moment, on est ouvert, oui, parce qu'on dessert le service de police de la ville de Montréal.
Mais comment vous gérez ça, justement? Hein? Parce que les autos de policiers, il y a plein de gens qui sont amenés à monter à l'intérieur. Est-ce que vous avez mis en place...
C'est ça. Mais nous, on ne va pas à l'arrière des véhicules de police. On va tout simplement au niveau du siège conducteur. C'est désinfecté.
Mais quand même, il y a des policiers en ce moment qui ont été testés positifs à la COVID-19.
Oui, mais pas dans notre section, pas dans notre secteur à nous. Mais de toute façon, comme je vous explique, on prend des mesures. Les mécaniciens portent constamment des gants. On a des masques au garage. Les clés sont désinfectées. Les voitures, on n'a pas de contact avec les policiers directs. Nos mécaniciens n'ont pas de contact direct avec les policiers.
Mais est-ce que vous continuez néanmoins à recevoir une clientèle civile ou tout simplement c'est arrêté à ce niveau-là?
Oui, on reçoit de la clientèle civile parce que je vous avoue que entre vous et moi, je suis infirmière, je fais du service à domicile, ma voiture ne démarre pas un matin. Si je peux pas aller travailler, c'est une chaîne qui s'ensuit, comprenez-vous?
Ouais.
Donc, oui, les stations de service et les garages de mécanique font partie des services essentiels. Ce ne sont pas tous ces garages qui sont ouverts, mais dont nous, on fait partie, oui. Et on dessert le service de police. Donc, ça nous a donné aussi une raison pour justifier aussi de l'ouverture de notre commerce. Sauf que je vous avoue qu'on a réduit les heures d'ouverture.
Et là, si on revient au cas des esthéticiennes qui ramènent du matériel chez elles pour travailler, j'imagine aussi qu'en plus ces services-là ne seront pas déclarés à l'impôt. Et en ce moment, on le sait, la facture fiscale par rapport à la COVID-19 sera exponentielle.
Exactement. Et c'est un problème majeur aussi. Ça va être une petite économie parallèle.
Puis cet argument-là, selon lequel, puis c'est vrai, le premier ministre Legault tantôt le disait bien, il y a des gens qui sont en panique en ce moment, qui sont anxieux parce que ce sont des pertes de revenus parfois des deux côtés. Là. Parfois, dans un même couple, les deux personnes ont perdu leurs emplois. Donc, l'argument, les gens doivent bien gagner leur vie, je suis quand même sensible à ça, on l'entend, mais là, ce que je comprends, c'est que par les méthodes employées, c'est dangereux de faire des soins esthétiques à la maison parce qu'elles sont proches du visage des patientes.
Exactement. Le risque de contamination est très élevé. Et il y a d'autres solutions pour le moment à utiliser pour pouvoir être en mesure de subvenir à nos besoins. Je prends juste l'exemple. Tout le monde, beaucoup de gens ont des hypothèques immobilières. Moi, la première, j'en ai quelques-unes. J'ai fait mon travail, j'ai fait mes devoirs hier matin. J'ai communiqué avec mes institutions financières. Moi, c'est tous des jardins, mais c'est pas toujours la même succursale. Et j'ai tout simplement organisé pour payer seulement les intérêts pour les 6 prochains mois.
Ouais.
Ça m'a été accordé. Tu sais, les taxes au niveau des villes, il y a des arrangements qui peuvent être faits au niveau de... Parce que moi, mon année fiscale, c'est le 31 décembre. J'ai parlé avec mon comptable. On va reporter le paiement de mes impôts. On va reporter... Tu sais, il y a des choses que lui, il est au courant. Je dis, moi, j'ai assez de m'occuper de mes affaires. Lui, je le paye pour ça. Donc, il m'a dit, Diane, n'inquiète pas, on va faire ça, 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 ça. Il y avait des solutions. Il y a toujours des choses qu'on peut faire au minimum pour l'instant.
Et là, vous avez avec votre conjoint des condos locatifs dans la région de Bromont. C'est quand même l'une des régions qui est particulièrement touchée. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre saison d'été?
Je vous dirais qu'on garde espoir que si les gens restent consciencieux et préoccupés par la situation actuelle, que si l'été...
Ça soit fini.
Exactement. Mmh. Et puis, j'ai déjà des demandes par courriel pour réserver des condos. Nous, on est en montagne. On est vraiment reculé. On est au pied des pistes. Les gens, c'est vraiment un site pour le vélo de montagne.
Oui, puis les gens ont dû annuler leur projet de vacances à l'extérieur du pays. Donc, j'imagine que pour ceux qui ont des chalets à louer cet été, ça va quand même être un peu la folie si, bien entendu, les mesures de confinement sont levées à ce moment.
Exactement. Nous-mêmes, on devait partir au Portugal et on est à canceller tout ça, là.
En terminant, Diane Falardeau, j'ai envie de vous poser la question suivante, parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui s'insurgent un peu contre la culture de la délation qui est en train de s'instaurer. Selon vous, est-ce que c'est une bonne chose si on voit, par exemple, qu'une personne tient un salon d'esthétique clandestin dans son sol, de la dénoncer?
Honnêtement, moi, je le ferais. Je pourrais me faire tirer des pierres. Mais c'est pas... Comment je vous dirais? Donc, c'est un commerce quand même particulier. C'est une proximité extrême, là. Une esthéticienne, là. On s'entend quand elle travaille dans votre visage. est à même pas un pied de votre visage, de respiration, de le risque de contamination, cette personne-là va retourner chez elle. C'est pas, ils vont dire oui, mais elle est tout seule avec l'esthéticienne dans son salon. Oui, mais l'esthéticienne en a passé 20 dans la semaine.
Puis on sait pas, comment si elle désinfecte ces choses. Puis vous êtes infirmière, là, vous le savez, là, désinfecter des choses de façon adéquate, c'est quand même pas si facile que ça.
Puis on s'entend que ça va être des petits salons de fortune, parce que le salon en tant que tel n'est pas dans la maison normalement. Donc, tu sais, on peut amener le maquillage, on peut amener les crèmes, on peut amener des petits appareils, mais les stérilisateurs, tout ça, vont probablement rester dans le commerce.
Ça pose toutes sortes d'autres problèmes. Diane Falardeau, merci beaucoup d'avoir attiré à notre attention ce type de situations-là qui sont, ma foi, assez inquiétantes. Infirmière, propriétaire aussi d'un garage, et j'ai envie de dire, moi, vous le savez, j'ai des injections de Botox dans le visage. J'en fais de façon sporadique. Et la personne qui m'injecte fait beaucoup de posts sur Instagram pour s'adresser à sa clientèle parce que, bien entendu, elle a décidé de fermer sa clinique et d'arrêter d'offrir ces soins-là, des soins esthétiques. Donc, des soins non essentiels en passant, là. Hein? C'est pas nécessaire. Et elle a eu des tonnes de courriels de personnes qui s'insurgeaient, qui capotaient, des gens qui pleuraient, qui étaient fâchés après elle parce qu'elle cessait temporairement ses activités d'injection. Et des filles qui lui écrivaient, c'est ce qu'elle me racontait. « Mon Dieu, mes lèvres sont en train de dégonfler. » Ben, tes lèvres, ils dégonfront, fille. Je veux dire, c'est pas très grave en ce moment. On fait face à une pandémie mondiale. Les babines de suceuse, on peut attendre. Hein? C'est ce que je me dis.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez Les Effrontés.
Parlons d'anxiété. D'ailleurs, si vous êtes en confinement et que vous éprouvez des symptômes d'anxiété, je serais curieuse de savoir comment vous arrivez à gérer ça. Là, on a parlé de boire du vin tantôt, mais c'est pas seulement la méthode. On prend d'autres méthodes quand même. Moi, je me gère en faisant du sport et en mangeant énormément. Je pense que tout le monde va prendre une coupe d'olive après ce confinement-là et ça sera vraiment pas grave, mais appelez-moi pour me dire comment vous gérez ça. Si vous êtes anxieux, ça se peut aussi que vous soyez bien relax avec ça, puis que vous vous dites, parce que moi, j'en vois passer des commentaires comme ça, ben moi, ma job, c'est d'être à la maison la plupart du temps, donc de devoir rester chez nous, je trouve pas ça si difficile que ça, mais il y a d'autres personnes, et j'en suis, qui ont une super grosse vie sociale, là, c'est-à-dire on aime ça sortir, on aime ça voir du monde, et ça peut quand même être assez difficile de vivre le confinement en ce moment. Vous pouvez me texter 1-877-CUBE Radio, ça c'est texto ou téléphone. Vous pouvez aussi m'écrire à studio@cube.radio. Vous pouvez m'écrire aussi sur ma page Facebook. Comment vous gérez votre anxiété? Est-ce que vous êtes en train de virer fou? Est-ce que vous couchez le soir avec la roue du hamster qui spin à aïe? Dites-moi ça. Et bon, pour ce qui est de la question de l'anxiété, évidemment, ça touche les jeunes. Ça touche particulièrement les jeunes. On le sait, là, les jeunes, en temps normal, sont aux prises avec des problèmes d'anxiété. Et j'en parle tout de suite avec Myriam D. Asselin, coordonnatrice des contenus et partenariats à Tel Jeune Ligne Parents. Bonjour, Mme Asselin.
Bonjour.
Bon, en ce moment, évidemment, tout le monde est stressé, tout le monde est angoissé. On le sait que les jeunes, habituellement, sont angoissés, plus peut-être que les générations précédentes. Ça, on le sait, c'est un fait, là. Il y a plusieurs études qui le démontrent. En ce moment, de quoi ça a l'air le volume d'appels et le volume de textos aussi, parce que les jeunes communiquent beaucoup par texto avec vous chez Tel Jeune, est-ce que c'est plus élevé qu'à l'habitude?
Oui, c'est plus élevé. Les jeunes, comme vous le dites bien, là, nous contactent soit par téléphone, texto ou clavardage ou courriel. Puis oui, on a une hausse de contacts vraiment dans les derniers jours. Mais surtout une hausse de contact en lien avec l'anxiété. Les jeunes ont vraiment besoin de parler de comment ils se sentent et de trouver aussi des stratégies pour faire face à cette période d'incertitude en ce moment. Donc, on fait face à une grande vague de contacts, puis on anticipe que ça va aussi augmenter dans les prochains jours parce qu'on sait que ça s'arrête pas demain, là.
Mais ces appels-là, par rapport à l'anxiété, Mme Asselin, est-ce que les jeunes, par exemple, ils sont anxieux par rapport à la COVID en tant que telle, là? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont peur de l'attraper ou ils sont anxieux par rapport au confinement? Parce que moi, si je prends l'exemple de ma fille de secondaire 1, elle, pogné la COVID-19, j'ai pas l'impression que ça la stresse tant que ça, mais de devoir rester chez nous puis de ne pas pouvoir voir ses amis, je remarque que ça, c'est peut-être plus générateur d'anxiété encore que la pandémie en tant que telle.
Oui, bien en fait, il y a toutes sortes de cas de figure. Il y a des jeunes qui sont inquiets de l'attraper, des jeunes qui sont peut-être d'emblée plus anxieux, de nature plus anxieuse, ou qui ont peur pour leurs proches. Il y a beaucoup de jeunes qui ont peur pour leurs parents ou leurs grands-parents.
Ouais.
Mais comme vous dites, il y a beaucoup d'anxiété générée par le confinement, beaucoup d'angoisse liée à l'école qui est arrêtée, des jeunes qui avaient, par exemple, des suivis avec des professionnels à l'école qui sont donc arrêtés. Mmh. Ça a des conséquences sur leur santé psychologique. Il y a des jeunes qui ont de la difficulté à comprendre pourquoi ils doivent moins voir leurs amis, ils se demandent quoi faire dans la maison. Il y a des jeunes qui sont des éponges aussi à l'anxiété sociale, puis en ce moment, l'anxiété sociale est à un niveau assez élevé, donc ils voient les conséquences que ça peut avoir, par exemple, dans la vie de leurs parents. Il y a certains parents qui perdent leur travail. Donc, à la maison, c'est anxiogène. On est confronté toujours à des nouvelles reliées à ce sujet-là. Donc, ils baignent dans tout ça. En plus que leur routine est chamboulée, qu'ils font plus ce qu'ils faisaient il y a une semaine à peine. Donc, il y a ce climat-là amène vraiment beaucoup d'anxiété.
Oui, puis Mme Asselin, vous parliez d'anxiété sociale. Les jeunes passent énormément de temps sur les médias sociaux, surtout en ce moment, puisqu'ils ne sont pas à l'école. Et je remarque qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent. Donc, ce qu'on peut voir comme parents, ce sont des espèces de situations qui dégénèrent, c'est-à-dire des nouvelles qui sont pas vraies. Et là, les jeunes s'en parlent entre eux et ça crée de plus en plus d'anxiété. C'est comme un espèce d'effet boule de neige. Est-ce que vous le ressentez là, chez tel jeune dans les appels?
Ben oui, parce qu'on ressent qu'ils...
Est-ce qu'ils posent des questions? Tu sais, c'est ça que est-ce que les jeunes vous posent des questions sur ce qui est vrai, ce qui est pas vrai?
Ils posent beaucoup de questions sur ce qui va se passer à l'école. C'est vraiment
ouais, c'est ça.
Puis par rapport à la contagion, ben c'est certain que ils reçoivent l'information, mais elle n'est pas nécessairement vulgarisée pour eux. Hein. Fait que souvent ils vont retenir certains messages, mais il faut aller leur expliquer davantage. Puis si j'avais un conseil à donner aux parents en ce moment, c'est peut-être d'aller creuser ça avec leurs jeunes. Qu'est-ce qu'ils comprennent de la contagion? Qu'est-ce qui les inquiète principalement, parce que effectivement, ils entendent tellement de messages, puis ils sont sur les réseaux sociaux, ils voient plein d'articles passer. Il y a des titres qui peuvent être aussi un petit peu sensationnalistes. Donc, c'est important d'aller recadrer certaines infos, en ajouter, compléter aussi des informations pour que les jeunes aient la vraie info. Puis relativiser aussi certaines informations parce que on peut juste le répéter, mais si on fait les bonnes choses, ça va passer plus rapidement. Mais effectivement, que quand t'as rien à faire puis que la seule chose que t'as à faire, c'est de lire les informations, là, ça monte le niveau d'anxiété. Là,
vous avez une ligne parents. Est-ce qu'il y a des parents qui vous appellent, qui s'inquiètent par rapport justement au confinement et à leurs jeunes?
Oui. Les parents ont beaucoup d'enjeux au niveau de la avec les enfants qui doivent rester à la maison. Ils peuvent avoir de la difficulté à expliquer la situation actuelle aux enfants ou aux ados. Ils peuvent être confrontés aux revendications de leurs jeunes en lien avec les mesures imposées.
Des jeunes qui veulent sortir quand même. Là, moi, j'ai vu ça, des amis de ma fille qui sortaient en cachette de leurs parents pendant que ceux-ci étaient au travail.
Oui, exactement. C'est ça arrive parce que là, c'est comme si toute la... Les règles de la maison sont changées depuis une semaine. Les familles sont vraiment en adaptation à vitesse grand V, là. Fait que il faut quand même que les parents peuvent faire respecter les règles, mais on comprend aussi les parents des fois qui choisissent des combats parce qu'en ce moment les parents vivent avec énormément d'anxiété aussi. Fait que ce qu'il faut travailler, en tout cas nous ce qu'on fait avec les parents, c'est vraiment de voir comment on peut mieux communiquer avec son jeune à ce niveau-là, comment on peut aussi prendre le temps de ventiler comme parent avant d'aller essayer de mettre des règles à son enfant. Il faut avoir une bonne tolérance à certaines incompréhensions puis à certains conflits en ce moment aussi. Fait que on essaie là, de regarder la situation au cas par cas avec chaque parent. C'est sûr qu'il n'y a pas de formule magique en ce moment parce que c'est comme si la société doit être résiliente. Puis dans chaque famille, il y a des situations différentes, mais il y a aussi des familles en ce moment qui vivaient déjà des difficultés. Je pense, par exemple, à des situations de divorce, à des familles où il y a plus de conflits, où le climat était déjà plus précaire.
Donc, là, tout ça est décuplé, évidemment.
Exactement. Les difficultés sont exacerbées. Donc, nous, on est vraiment là en première ligne. Notre travail, c'est d'aider les parents à faire face à ça au jour le jour. Puis, je pense qu'un service de première ligne comme Tel Jeune et Ligne Parents n'a jamais été aussi utile qu'en ce moment où on peut être au front avec chacune des situations que vivent les familles. Donc, il faut vraiment pas hésiter à nous contacter s'il y a des choses qui se passent. On prend le temps avec tout le monde.
Là, vous m'avez dit, on pourrait être amené à penser que le nombre d'appels va augmenter encore. Est-ce que vous avez assez de bénévoles pour suffire à cette tâche-là?
Ce qui est important de mentionner, c'est que nous, on n'est pas des bénévoles chez Tel Jeune. Ce sont des intervenants professionnels qui répondent aux appels, aux textos, aux clavardages. Donc, les organismes travaillent tous différemment. Ça, c'est notre modèle à nous. Donc, en ce moment, nous, on a des intervenants, mais c'est sûr que on n'a pas de budget illimité. Puis, nos événements bénéfices ont été annulés. On a d'ailleurs parti une campagne de GoFundMe aujourd'hui pour aller chercher des sous pour compléter ça, pour peut-être donner plus d'heures à nos intervenants. Donc, c'est notre but là en ce moment.
Et s'il y a un service qui est essentiel en ce moment, c'est bien le vôtre chez Tel Jeune. Je vais donner le numéro si jamais il y a des jeunes ou des parents qui nous écoutent qui peut-être ont besoin d'une oreille attentive, ont besoin de conseils, ont besoin de se faire rassurer aussi. C'est le 1-800-263-2266. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Myriam Déhassin, qui est coordonnatrice des contenus et partenariats à Tel Jeune.
Ça me fait plaisir. Merci à vous.
Bonne journée.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Les effronter.
Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
Bon, à travers tout ça, il n'y a pas que des affaires plates. On le dit, les Québécois sont un peuple solidaire, un peuple courageux et il y a des entreprises qui mettent en ce moment la main à la pâte, qui contribuent, qui essaient de poser des actions pour que les choses se passent mieux. Je pense entre autres à Pure Vodka qui ont décidé de fabriquer une solution à base d'alcool pour un désinfectant pour les mains. Et on va parler tout de suite à PH Quentin. PH Quentin, vous le connaissez, c'est un ancien candidat d'OD. Il est aussi cofondateur de Vegan Mais Pas Plate, une entreprise qui va offrir des plats surgelés en livraison, mais surtout une entreprise qui va offrir 25% de ses profits à fournir, en fait, elle va consacrer une partie de ses profils à fournir des repas surgelés aux professionnels de la santé du CHUM. On lui parle tout de suite à PH Quentin. Salut!
Salut, ça va bien?
Ça va super bien. Ça fait du bien, on dirait, de voir au travers de tout ça des initiatives un peu positives qui mettent du baume sur notre cœur parce qu'on est un peu déprimé collectivement en ce moment. PH, toi, comment tu te sens?
Moi, j'ai une espèce de dichotomie interne par rapport à la situation. Je trouve que évidemment, c'est très triste tout ce qui arrive sur la planète. Par contre, j'ai l'impression qu'on voit pour la première fois une société avec une majorité de bons. On voit tout le monde qui prend des initiatives, comme tu disais tout à l'heure. On voit tout le monde qui soutient. On voit beaucoup d'entraide. On voit des mesures progressives, gouvernementales. Donc, je suis réussi à avoir un petit peu une lueur d'espoir pour nous dans tout ça.
Est-ce que c'était une évidence pour vous chez Vegan Mais Pas Plate de vous dire comment on pourrait aider, contribuer? Comment c'est venu cette idée-là d'offrir des repas surgelés aux professionnels de la santé qui travaillent, disons-le, très, très fort en ce moment?
Oui, exact. En fait, j'étais avec ma copine Jessie Nadeau avec qui j'ai démarré l'entreprise. Puis on essayait de trouver une façon, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Tu sais, comment on pouvait réussir à premièrement faciliter la quarantaine des gens, puis deuxièmement, après ça, évidemment, le faire de façon à redonner dans la société, là, pas par pure aspiration monétaire. Donc, on s'est dit, ce serait quoi la meilleure solution? Puis là, évidemment, que les professionnels de la santé, c'était les premiers qui sont apparus dans notre discussion parce que c'est ceux qui combattent le plus fermement en ce moment. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, on a quelque chose, on a la possibilité de faire des plats surgelés, donc ça fait partie de notre entreprise. Donc, pourquoi pas faciliter déjà l'alimentation de ces gens-là. Donc, quand ils vont revenir chez eux après des longs quarts de travail, ils vont pouvoir juste sortir du congélateur un repas qui est équilibré, qui est balancé, puis qui va leur permettre de continuer à combattre pour tout le monde qui est chez eux en ce moment.
C'est une bonne affaire, mais je me dis en même temps, les professionnels de la santé ont conservé leurs emplois, donc leurs revenus. Je me dis en ce moment, il y a tellement des gens qui ont perdu leur job, puis on sait là, cette crise-là au niveau des familles qui sont défavorisées, ça creuse encore plus le fossé. Est-ce que vous pourriez peut-être penser peut-être dans un futur à contribuer peut-être dans des strates plus défavorisées socialement qui sont dans le grand besoin en ce moment?
Tout à fait. En ce moment, écoutez, il n'y a pas de tout le monde semble être dans le besoin. Ouais. On s'est dit que pour l'instant, tant que la crise allait être immédiate, puis que ce qui allait le plus dans les prochaines semaines, qui allait être le plus problématique, c'est sans aucun doute les urgences puis les hôpitaux qui allaient être remplis. Tout le monde allait travailler à temps supplémentaire sans arrêt. Donc, pour l'instant, la priorité pour nous semblait aller dans cette direction-là. Donc, c'est vers là qu'on s'est aligné. Mais je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de monde qui vont avoir de besoin de plusieurs choses dans les prochaines semaines, ça c'est certain.
Et Pierre Chantet, je me disais, j'ai envie qu'on se parle un peu de véganisme parce que on le sait, là, on a eu un phénomène de panique. Il y a des gens qui pensaient qu'on allait manquer de bouffe. Ça a été littéralement la ruée dans certains commerces. Je pense entre autres au supermarché Costco. Les comptoirs de viande étaient vides. Je me dis, quand on fait la promotion de l'alimentation végane comme vous, c'est peut-être l'occasion pour une partie de la population de se familiariser avec cette façon-là de manger. Tu sais, je dis pas qu'on est en train de devoir devenir végane, mais force est d'admettre que face à peut-être une rationalisation de notre alimentation, un budget qui baisse aussi, le véganisme, ça peut être une porte de sortie?
Tout à fait, tout à fait. Nous, on a fait, avec ma copine, plusieurs tentatives d'épicerie pour essayer de faire les épiceries les plus économiques possibles, essayer de faire les épiceries qui durent
mais végane,
le plus longtemps possible. Végane, 100% végane, toujours. Puis, puis évidemment que diète végane non transformée, c'est la façon la moins chère de se nourrir. Puis ça, c'est pas dans les arts, c'est pas un débat, c'est des faits. Donc, c'est vraiment effectivement, quand les comptoirs de viande sont vides, où est-ce qu'on trouve nos protéines? On les trouve dans les légumineuses, on les trouve dans le tofu, dans le tempeh, on les trouve dans toutes ces choses-là. Puis ça revient évidemment beaucoup moins cher que la viande.
Bon, ta copine Jessie Nadeau et toi, vous êtes des influenceurs. Je ne sais pas si vous êtes pour ou contre ce mot-là, mais c'est non moins le mot que je vais utiliser. Vous mettez la main à la pâte concrètement. Bravo pour ça. Par contre, il y a d'autres influenceurs. On se demande qu'est-ce qu'ils font par les temps qui courent. Et là, loin de moi, l'idée de vouloir dire que les influenceurs, ça sert à rien. Au contraire, mais bon, parlons de P.O. Beaudoin parce que beaucoup de gens en ce moment, on va se le dire, rient un peu de lui, rient un peu de certains autres influenceurs qui font des photos un peu douteuse, qui continue à prendre des photos d'eux en chess, en maillot de bain. P.O. Beaudoin, on l'a vu avec une couronne de barbelés, tu sais, comme Jésus sur la croix. Mettons, c'était-tu nécessaire, tu sais?
Est-ce que c'était nécessaire? J'imagine que c'était pas nécessaire. C'est à quel point en ce moment on ferme tout ce qui est pas nécessaire dans la vie réelle.
Mais vous essayez de vous rendre utile avec votre initiative, tu sais, à un moment donné aussi, je pense qu'en ce moment, il n'y a plus rien qui fait du sens, tu sais.
J'ai l'impression que c'est comme dans tout. Évidemment, il y a des influenceurs qui utilisent leur tribune qui font certains faux pas, définitivement. Par contre, je crois que avec l'appel du premier ministre pour parler aux jeunes, lorsqu'il a fait appel justement aux créateurs de contenu,
ça a fonctionné.
Je crois que là, on a vraiment vu qu'est-ce que les influenceurs qui sont conscientisés peuvent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent amener à la société. C'est un tremplin direct pour parler aux jeunes, un tremplin qui n'existait pas vraiment avant. T'sais. Donc, oui, il y a des faux pas, je suis d'accord avec vous. Je suis vraiment pas en accord avec tout ce qui est fait sur le web en ce moment. Par contre, force est d'admettre que lorsque les influenceurs, les créateurs de contenu sont conscientisés, il peut en sortir vraiment beaucoup de bien.
Ben oui, parce que avoir une tribune comme celle-là, avoir des centaines de milliers de personnes qui nous suivent, c'est un pouvoir et c'est un pouvoir qu'on devrait utiliser à bon escient. En ce moment, plus que jamais, le mettre à profit pour le bien collectif, non?
Tout à fait. Moi, je suis 100% d'accord avec vous. Maintenant, le contre-argument de ça serait de dire que les gens aussi ont besoin d'être distraits.
Oui, de se divertir.
Ont besoin d'avoir du divertissement pur et simple. Je veux dire, oui, c'est quelque chose de parler d'enjeu social. C'est quelque chose de parler de la pandémie actuelle. Par contre, si c'était juste ça qui affluait dans notre direction à tous les jours, vous l'avez dit en début d'entrevue, des fois, il y a des choses bien. Puis des fois, il y a des choses qui sont simplement qui nous sortent de notre tête. Puis je pense que la détresse mentale va être de plus en plus un enjeu qu'on va parler dans les prochaines semaines. Donc, je suis pas prêt à discréditer complètement des gens qui continuent à utiliser leur tribune pour simplement divertir comme ils le faisaient avant.
Puis peut-être c'est une bonne chose, de parler à leur auditoire d'anxiété, justement. Puis ce que je remarque aussi, c'est que les jeunes, évidemment, puis même moi, là, on est beaucoup sur Instagram, puis il y a beaucoup de fake news. Ça peut devenir très, très paniquant. Je me dis que ça peut être la bonne occasion pour les influenceurs d'essayer un peu d'expliquer, de départager tout ça, ceux qui ont les capacités de le faire, évidemment. Mais je sais pas là pour toi, mais moi, une photo de P.O. Baudouin qui pleure des fausses larmes, je sais pas. Je trouve que en temps de crise comme ça, ça devient un peu indécent. Mais bon, ça, c'est moi.
Rendu là, c'est la décision de chacun de le suivre ou non. Hein.
Exactement. Ça, t'as bien raison et c'est ce que je dis.
Vous pouvez tout à fait cacher son contenu. C'est très facile à faire sur Instagram.
PH Quentin, cofondateur de Vegan Mais Pas Plate, avec sa copine Jessie Nadeau, faut pas l'oublier. Ils sont deux là-dedans qui ont choisi d'offrir des repas surgelés aux professionnels de la santé du CHUM. Bravo pour cette initiative. Bravo de mettre la main à la pâte. Vraiment, vous avez toute mon admiration. Merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup. Si les gens veulent se procurer des plats, s'ils ne veulent pas éviter de sortir de chez eux, c'est le www.vmpp.ca.
J'ai presque le goût d'en essayer. Je vais en commander, je pense.
Ben, je vous conseille. Ce serait, on ne reçoit que des commentaires positifs.
Mais là, c'est trois plats, hein?
On a trois sortes. On vend ça en trois paquets différents, donc 5, 10 ou 18 plat, puis la livraison.
C'est quoi votre meilleur? Là, moi, c'est qu'est-ce que je devrais me commander? C'est quoi votre plus gros vendeur? Je fais mes emplettes, j'en profite.
C'est les plats dumplings. Par contre, boîtes qu'on fait en ce moment, c'est un mix de tous les plats, donc vous pouvez goûter aux trois.
Parfait. Merci beaucoup, PH Quentin. Bonne
Excellent,
journée.
Excellent, merci.
Écrivaine. Blogueuse. Scénariste et animatrice.
Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
Le risque de contracter le virus.
COVID-19.
C'est maintenant l'heure de notre point journalier avec Vincent Dessoureau. Bilan en forte hausse au Québec. Rien pour nous aider avec notre anxiété?
Non, ça c'est sûr. D'ailleurs, l'anxiété, tu vois, ça a été le premier point de François Legault, son point de presse donc de 13h, très attendu, parce qu'on sait, hier, la donnée était un peu faussée par un changement dans le calcul. Alors, on avait tous fait le saut, mais on disait, OK, bon, est-ce qu'aujourd'hui, une fois que c'est stabilisé, on pourra voir un chiffre moins inquiétant? Bien, ce n'était pas le cas, hein, parce que la hausse est très marquée au Québec. 385 cas additionnels, donc 1013 cas présentement au Québec. Il faut se rappeler qu'il y a 48 heures, on était à 220 cas, là. 200 à 1000 en dedans de 2 à 3 jours.
C'est dur quand on entend des chiffres comme ça de ne pas faire des rapprochements avec la situation en Italie.
C'est sûr, mais évidemment, on est loin d'être là parce que aussi la question du nombre de cas, la question de la semaine de relâche. Alors, on était dans un contexte où on voit vraiment une hausse plus marquée. Faut dire que la situation aussi dans le nombre de lits, on a à peu près 4000 lits disponibles. Il y en a 67 d'occupés, là, présentement.
Donc, rassurez-vous, on n'est pas en train de vivre l'Italie 2. Là, parce qu'il y a plusieurs messages dans ce sens-là sur les médias sociaux des suites de la conférence de presse. On tient à dire que ce n'est pas du tout la même chose.
C'est vraiment pas le cas. 67 hospitalisations, là, je vous le dis, il y a 4000 lits qui attendent des patients. Alors, on est très loin de la surcharge, même pas proche. 31 en soins intensifs. Le bilan toujours à 4 décès. 2500 personnes en attente de tests. C'est pas un mauvais signe, là, le fait qu'il y ait beaucoup d'attentes. Beaucoup de gens en attente, c'est parce qu'entre autres, on a ouvert la clinique sans rendez-vous à Montréal, qui a été couronnée de succès. On a fait 3600 prélèvements hier. Alors, c'est sûr que ça va augmenter la quantité de nombre, mais ça montre que le système fait des tests. Et ça, c'est quand même au cœur des solutions. 12200 tests négatifs. Et bon, avant de donner ce chiffre-là, qui était peut-être dur à digérer pour certains, François Legault a commencé en parlant du stress que plusieurs Québécois vivent.
C'est normal.
C'est normal. Je pense que si vous vivez aucun stress par rapport à ce qui se passe,
c'est pas normal.
Peut-être pas normal. Alors oui, c'est normal. Il a voulu se faire rassurant là-dessus parce qu'on traverse tous des périodes d'insécurité plus ou moins grandes, dépendamment de où on se trouve. Je vous fais entendre de François Legault là-dessus.
D'abord, je veux vous dire que je comprends que certaines soient stressées. C'est normal parce que habituellement, on n'a pas des enfants à la maison. Les aînés reçoivent de la visite, là, en reçoivent pas. Je sais qu'il y a des travailleurs qui ont perdu leur emploi puis se demandent quand et s'ils vont retrouver leur emploi. Je sais qu'il y a des entrepreneurs aussi qui ont bâti des entreprises toute leur vie puis que là, ils se disent, est-ce que j'ai tout perdu ce que j'ai bâti? Donc, c'est normal d'être stressé. On va s'occuper de ces problèmes-là autant que possible dans les prochaines semaines. Mais la priorité pour les trois prochaines semaines, c'est d'éviter la contagion.
Bon, alors éviter la contagion, mais effectivement, on pense à tous ceux qui ont perdu leur emploi, ceux gens qui peuvent pas se rendre voir leurs grands-parents ou les grands-parents eux-mêmes qui se sentent seuls. On parlait quand même de ceux qui ont bâti des entreprises toute leur vie, effectivement, et qui se demandent, est-ce que je vais tout perdre? Alors, la situation est effectivement très difficile pour tous, mais le principal but, là, à court terme, c'est vraiment de ralentir cette croissance de cas. François Legault a dit, est revenu sur sa conférence téléphonique d'hier avec Justin Trudeau, et quand même donné des éléments
importants. On dirait que c'est lui qui dirige le Canada en ce moment. De la façon dont il parlait, j'étais comme, mon Dieu, on dirait que c'est lui qui a le lead.
On n'était pas là. À mon avis, il y a d'autres premiers ministres de province qui ont même mis quand même sur ce qui se passe. Mais François Legault avait trois points à amener hier, très clairs. Le premier, priorité sur l'équipement médical. Il faut sécuriser l'approvisionnement en équipements médicaux au Canada le plus vite possible. Entre autres, on a des commandes au Québec, on en a pour encore quelques semaines, mais c'est ce que les commandes qui arrivent de d'autres pays vont être annulées parce qu'eux autres mêmes sont dans le trouble.
Ça reste à voir.
Ben, c'est ça. Alors, au Canada, on doit sécuriser un approvisionnement le plus rapidement possible et surtout au niveau des tests, ce qu'on appelle les écouvillons là, qui permettent de faire des tests. Ça, on a besoin d'assurer un approvisionnement parce que les tests, c'est important. Alors, ça a été le premier message de Justin Trudeau. Le deuxième, à quand les chèques d'assurance-emploi, que ce soit pour ceux qui avaient naturellement le droit à l'assurance-emploi et les travailleurs autonomes qui sont ajoutés dans un nouveau programme dont on attend encore le fin détail. Ce sera le 6 avril, selon les mots de Justin Trudeau. Et là, 6 avril, pour certains, ils font comme, OK, 6 avril, c'est long. Est-ce que la province pourrait là-dedans faire quelque chose de plus rapidement? François Legault est là-dessus, mais il faudra probablement donc attendre encore un peu. Et la question des lois, des mesures d'urgence.
Qui inquiète beaucoup de monde quand même.
Oui, ça, François Legault a dit que selon lui, c'était prématuré. D'ailleurs, je vous en parlais tantôt là, de la réponse de Justin Trudeau qui, effectivement, on n'en est pas là pour l'instant. Et que si jamais on s'y rend, François Legault dit qu'il faut que le Québec et les provinces aient quand même leur flexibilité. Là, parce qu'il dit...
On se garde une marge de manœuvre.
Oui, parce que dépendamment des provinces, c'est pas toujours le même portrait. Oui. Alors, on veut, et surtout, on veut garder... Parce que je pense que les Québécois ont confiance à l'équipe en place au Québec, plus que l'équipe au fédéral.
Ouais.
On veut qu'il y ait encore le contrôle au Québec. Alors,
et
c'est
on se fie aussi sur les gens, sur leur bonne foi et sur leur capacité à suivre les consignes.
Oui, alors c'est les demandes qui ont été faites. Sinon, dans les autres points importants, un rappel sur hier. Là, parce qu'hier, on a fermé, on a mis le Québec sur pause. Et une des choses qui a été peut-être mal comprise par certains, c'est que les gens là, qui ne sont pas dans les services essentiels, vous pouvez quand même sortir pour quelques trucs particuliers. La promenade, c'est encore permis. Dis pas, c'est juste les gens qui sont ambulanciers qui peuvent aller faire une promenade. Promenade, c'est permis si vous respectez le 2 mètres. Sortir à l'épicerie, sortir, faire les courses,
le moins possible quand même.
Le moins possible, évidemment, mais on n'a pas le choix. Là. Alors, et aussi, pour aller chercher, par exemple, de la nourriture pour des gens de plus de 70 ans qui sont chez eux, ça, vous avez le droit, à l'exception des résidences pour personnes âgées où là, ça doit être supervisé. Ça, il l'a expliqué. Vague de solidarité aussi. On dit qu'au gouvernement du Québec, on reçoit des tonnes de messages de gens qui disent, nous, on veut aider. On est des jeunes et moins jeunes. On n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Le ministre Jean Boulay, ministre du Travail, qui va, est à travailler sur un portail web sur le site du gouvernement du Québec pour les endroits où on va avoir besoin de bénévoles. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore fait, mais ceux qui veulent offrir leur aide, il y aura probablement occasion de le faire. Et on félicitait les Québécois qui ont levé la main pour donner un coup de main. La question là pour M. Arruda, il s'est fait poser la question concernant Montréal, une nouvelle qui avait circulé un peu avant qu'on donne les chiffres là, sur le fait qu'à Montréal, il y a une contamination communautaire, là, comme quoi on avait identifié du côté de la Direction régionale de la santé publique 300 cas de COVID-19 là, observés dans la métropole.
Mais M. Arruda en parle quand même depuis quelques jours qu'il y a une possibilité de contamination communautaire.
Oui, c'est encore pas très grand selon M. Arruda, mais ce qu'il a dit, c'est qu'on fait quand même toutes les enquêtes, donc on a une capacité encore d'enquête suffisante au Québec pour aller analyser chacun des cas présentement. On a la capacité de le faire. Je vais entendre Horacio Arruda, la santé publique, là-dessus.
On n'a pas encore rendu un stade qui va arriver plus tard, tout dépendamment, où on ne sera plus en mesure d'enquêter chacun des cas. Je ne sais pas si vous comprenez en termes de quantité. Les enquêtes à Montréal, même si ça a demandé énormément d'autres ressources en termes de quantité de formation, sont faites encore. À chaque fois qu'il y a un cas qui est COVID positif, il y a quelqu'un qui téléphone puis appelle. À un moment donné, on appelle ça le transfert d'approche de santé publique. On ne le fait plus au point de vue individuel, on le fait de façon, je dirais, massive.
Bon, alors là, on dit qu'il n'y a pas à Montréal là, de la COVID-19 partout. Il faut quand même être vigilant, mais oui, à certains endroits, on n'est pas capable de remonter jusqu'à un voyage pour trouver la source de la COVID-19. Alors, on comprend que c'est quelqu'un qui s'est mis la main sur une rampe ou sur quelque chose dans le métro. Il n'y a pas un endroit spécifique. On ne connaît pas la source à certains endroits. Alors, ça montre qu'il faut être prudent tout le temps.
On fait attention aussi, je le souligne au passage, quand on se rend à l'épicerie, tu sais, toucher les fruits et légumes, non emballés, là, on peut... Hein?
Tâter le brocoli, là, c'est parce que...
C'est pas le temps.
Non, c'est pas le temps.
Il y a des gens dans certains supermarchés qui sont payés en ce moment pour surveiller les clients.
Les gens?
Pour pas que les personnes touchent aux fruits et légumes. C'est-à-dire, on doit se rendre et directement prendre le fruit ou le légume sans...
Ils devraient mettre des grandes pancartes, même, à mon avis, là, tout près des fruits et légumes.
Mais c'est le gros bon sens. Je veux dire, à un moment donné, tu commences pas à tâter les avocats.
Non,
c'est pas
goûter les raisins, là, dans le sac.
Je me risquerais pas.
Non, là, les gens vont en dessous des sacs de raisins. Là, mais faites pas ça, vous pouvez y aller à l'œil. Au pire, la clémentine, elle sera un peu sèche, là, puis le citron sera un peu dur, puis c'est pas grave.
Et là, il y a plusieurs, là, je fais ma chronique économie familiale, il y a plusieurs questionnements sur les médias sociaux en ce moment sur comment on lave les fruits et les légumes qui ont été manipulés
c'est vrai?
À l'épicerie.
Bonne question.
Ben, en fait, le moyen le plus efficace, ce qui est mis de l'avant par la santé publique, c'est vraiment de laver avec eau et savon à vaisselle. Donc, toutes les histoires que vous lisez, là, le vinaigre de vin, le vinaigre de vin rouge, c'est plus ou moins efficace. On met un petit peu de savon à vaisselle dans un évier d'eau, on frotte bien, puis après ça, on rince bien et on est en business.
Ah! Hein, est-ce que les avocats trop durs vont au lave-vaisselle?
Ah, je pense pas.
Non? Okay.
Mais là, en ce moment, je crois plus en rien. Je pourrais mettre tout dans la vaisselle.
Oui,
me mettre dans la vaisselle.
Ça, c'est vrai. D'ailleurs, peut-être un tour pour les régions du Québec, puisque vous nous écoutez d'un peu partout à travers la province. Là, ben, Montréal, 439 cas, c'est vraiment évidemment là où il y a la plus grande population.
Ben oui.
130 en Estrie, 125 en Montérégie. La capitale nationale, 79. Lanaudière, 55. Laval, 60. 44 dans les Laurentides. Et le reste, c'est de très, très petits nombres, dépendant si vous êtes dans des régions que je n'ai pas nommées. Alors, c'est la situation actuelle au Québec.
Et au niveau des ambulanciers, on commence à avoir des gens qui sont atteints.
Oui, et il y a vraiment un rappel à faire à tout le monde là, concernant les appels ambulanciers au 911. Il faut absolument qu'on dise la vérité. Ça paraît simple.
Je peux pas comprendre qu'en ce moment, on puisse mentir à propos de notre santé.
Il y a des gens qui reviennent de voyage et là, s'il y a des problèmes de santé, on appelle au 911. On va vous demander, est-ce que vous êtes de retour de voyage? Est-ce que vous avez côtoyé quelqu'un?
Ils vont venir vous chercher pareil, la gang. Là.
Ils vont venir à toute vitesse.
C'est juste qu'ils vont mettre un masque.
Ils vont mettre un masque, un petit équipement. Ça va prendre une minute de plus. Mais il y a des gens qui ne donnent pas l'information. Et ce que ça cause, c'est des ambulanciers qui sont soit infectés ou soit qui se retrouvent en quarantaine, ce qui est pas mieux. Donc, 17 ambulanciers qui sont en isolement présentement dans, entre autres, la région de Lanaudière. Et c'est même pas des gens qui sont allés intervenir là, à la résidence Eva de Lavaltrie qui a été durement touchée. C'est des employés qui sont allés ailleurs, des paramédics qui sont intervenus. Puis après ça, on s'est rendu compte que les gens avaient la COVID-19.
Puis on peut la transmettre parce qu'on est sans symptômes, donc on s'en doute pas. Donc, c'est la contagion communautaire, là, c'est comme ça que ça se produit. Là.
Oui, et les paramédics, veulent pas, après ça, vont aller voir dans d'autres
qui
maisons.
Qui peuvent être vulnérables.
De gens qui peuvent être vulnérables. Ouais. Je vais faire entendre d'ailleurs un représentant des ambulanciers de Lanaudière sur cette question-là et l'importance de répondre aux questions franchement et de ne pas se gêner que vous allez être traité de la même façon que les autres.
17 actuellement qui sont arrêtés et il y en a deux qui ont le virus actuellement, donc sont à la maison, qui sont quand même relativement souffrants. Ils nous décrivent la chose comme étant une très grosse grippe comme ils n'ont jamais vécu. Pour plusieurs, la raison, c'est qu'ils n'ont pas été en mesure de porter les équipements de sécurité quand ils ont intervenu auprès des patients, parce que, clairement, on n'avait pas toute l'information requise de la part de soit des patients ou de l'entourage des patients.
Bon, alors, c'est ça, là. Alors, dites la vérité et ça devrait bien aller. On a besoin de notre personnel ambulancier comme on a besoin de notre personnel dans le milieu hospitalier, les policiers. Alors, là-dessus, faut être prudent auprès de tout le monde.
Terminons avec les Jeux olympiques rapidement parce qu'enfin, on a pris des décisions.
Oui, c'était devenu un peu ridicule.
C'est une joke.
Oui, que le CIO n'ait pas pris cette décision. En fait, ça a été poussé. Il y a eu le Canada qui s'est retiré, l'Association d'athlétisme et le Japon lui-même. C'est le gouvernement, le président Shinzo Abe qui doit demander au Comité international olympique d'annuler, en fait, de reporter les Jeux. Finalement, ça a été accepté. Il aura fallu ça pour que le CIO se décide à reporter en 2021. Faut dire que oui, c'est compliqué. C'est un casse-tête, mais là, c'est un casse-tête pour tout le monde. Le stade, il va être encore là en 2021. C'est sûr que c'est le bordel pour les qualifications olympiques. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? C'est énormément de déception pour tous nos athlètes.
Oui, mais là, en ce moment, là, la santé doit primer sur n'importe quel autre aspect de la vie sociale.
C'est ça. Tout le monde en souffre. On ne va pas retransmettre la maladie dans des pays qui n'en ont pas à cause de notre passion du sport. Vous rappelez que c'est quand même 7 ans de travail pour les Japonais là, qui ont été élus ville hôte des Jeux en 2013. Alors, 7 ans de travail, tout était prêt. Alors, c'est quand même une grande déception pour les Japonais, mais qui auront la chance de se reprendre. On sera tu heureux si en 2021, on est sorti de ça, c'est les Jeux, le monde s'ouvre. Ce sera une cérémonie des Jeux olympiques d'ouverture probablement particulière, en espérant que 2021 nous réserve du beau.
Mais si on suit les consignes, ça devrait bien aller. Merci, oui, Vincent Dessoureau, pour ce résumé. On te retrouve tantôt avec Mario
Dumont. Avec Mario, oui.
Les effrontés.
Avec Geneviève Petersen. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
Les effrontés.
Je vous rappelle que vous pouvez nous texter ou nous appeler au 1-877-CUBE Radio pour nous parler de comment vous vivez ça, cette crise-là en ce moment, comment vous vivez votre confinement, est-ce que vous êtes anxieux? Il y a un auditeur qui nous a appelé pour nous parler de sa situation parce que c'est vrai que depuis le début de cette crise-là, on parle beaucoup des familles, des gens en couple qui sont confinés dans leur maison, mais pour des personnes qui sont seules, qui vivent seules et qui n'ont que leur emploi, si on veut, pour s'occuper l'esprit. Donc, l'emploi est vraiment au centre de l'existence et qu'ils l'ont perdu, ça peut devenir excessivement anxiogène. Et cet auditeur-là, d'ailleurs, merci de souligner ce point-là, c'est quand même assez important. Il nous expliquait que de son côté, et vraiment, il n'est fort probablement pas le seul dans son cas, le taux d'anxiété est quand même haut. Donc, qu'on soit parent de jeunes ou qu'on soit une personne seule, je crois que cette situation-là, et c'est ce qu'il nous a dit, affecte tout le monde en ce moment. Allons tout de suite parler à notre collaborateur, Martin Forgue, que vous connaissez, journaliste auteur indépendant. On parle avec lui de la situation ici et aux États-Unis dans le contexte de crise qu'on connaît. Bonjour Martin.
Allô Geneviève, ça fait longtemps.
Ça fait très longtemps. T'es en confinement. Comment ça se passe pour toi?
Ben, ici, c'est au jour le jour. Hein. Moi, personnellement, au niveau de l'anxiété, ça va. Là. J'ai le privilège d'avoir eu à gérer des situations autrement. Autrement plus problématique, là. Mais sinon, pour l'instant, ça donne l'occasion de se rattraper sur des projets personnels, de réapprendre à se reconnecter aux bases de la cuisine, notamment.
Beaucoup de gens mangent, c'est vrai.
Mais tu sais, il faut, je pense qu'en bout de ligne, il faut le prendre 24 heures à la fois, puis sans tomber dans l'anxiété généralisée, quand même anticiper un peu les problèmes à venir et les solutions à envisager par rapport à ça.
Bon, tout d'abord, quelques observations sur la situation, Martin Forgue.
Oui, tu vois, moi, je le remarque depuis qu'on... ça fait déjà un peu plus de 2 semaines là, qu'on est en confinement, puis, tu sais, là, je vois un peu, évidemment, les réseaux sociaux, c'est une opportunité pour nous de voir comment se passe une crise en temps réel, d'un point de vue généralisé. Puis, tu vois, moi, je vois beaucoup de gens, depuis quelques semaines, là, on se garoche dans les épiceries, c'est la panique, un peu tout ça. Puis, tu sais, on le vit, mais en même temps, tu vois, moi, je regardais ça, puis ce que je vois aussi, dans le fond, c'est faut se rappeler que c'est le quotidien de millions d'êtres humains partout dans le monde.
Tu veux dire de manquer des produits essentiels?
De vivre dans l'incertitude, ouais. De manquer de produits essentiels, de pas pouvoir de pas pouvoir espérer, tu sais, la sécurité, de pouvoir espérer pour soi, pour sa famille, tout ça, tu sais. Donc, faut je pense qu'on a une opportunité, là, quand même, de prendre acte, tu sais, de cette réalité-là, puis de se dire que finalement, de un, chez nous, jusqu'à maintenant, on s'en sort, je pense, relativement bien par rapport à ailleurs, puis aussi une espèce de prise de conscience, tu sais,
sur notre mode de vie.
Peut-être après, ben, sur notre mode de vie, sur le relatif confort qu'on a, parce que bon, nous, ça arrive dans un pays quand même très, tu sais, très riche, très développé, avec un système public qui est capable d'absorber le coup jusqu'à maintenant.
Bon, on est dans Watt, là, on a un filet social incroyable, là, c'est sûr.
On l'est. Il faut pas se culpabiliser de ce qui se passe avant, mais je pense qu'il faut quand même, il faut quand même en prendre conscience.
Bon,
ensuite, oui.
Continue, vas-y.
Ben oui, ensuite de ça, tu sais, ben je voulais faire une petite parenthèse, c'est parce que bon, là, je parlais de pays développés, mais tu sais, aux États-Unis. Tu vois, là, ça a été annoncé, là, le président Trump qui veut lever, qui parle déjà de lever bientôt les restrictions pour essayer, de repartir l'économie.
Ben oui, c'est ça, puis c'est assez ironique parce qu'ici, on nous martèle, et c'est ce que François Legault soulignait encore pas plus tard qu'à 13h pendant le point de presse quotidien. En ce moment, notre priorité, ça doit être la santé. La santé doit primer sur l'économie. C'est vraiment pas le cas de tous les dirigeants, là, du côté de chez Trump. C'est ce qu'on craint.
On voit vraiment, tu sais, entre ici puis là-bas, tu sais, puis je dis là-bas, mais on est à Montréal, on est à 1h30 de la frontière.
Ouais.
Mais tu sais, c'est vraiment un choc de valeur, tu sais. C'est qu'ici, on priorise la santé, tu sais, on a un système public. Là-bas, tu sais, combien de temps ça a pris avant que beaucoup de personnes aient simplement accès à des tests parce que ça coûtait environ 3 000 $ pour se faire tester.
Oui, puis il y a tout le réseau des immigrants illégaux qui peuvent pas aussi se permettre, d'aller se rapporter aux autorités et deux, de perdre du revenu, donc ils continuent à aller travailler même si...
Ben oui, puis cette femme-là, il y a une histoire qui est sortie il y a environ une semaine, une femme qui a été testée positive, qui a été traitée à l'hôpital, elle est sortie de là avec une facture de 34 000 $.
Ça donne pas envie d'y aller,
ça. Ça donne pas envie d'y aller et ça nous remet dans le contexte là du puis tu sais de tous ces gens qui font l'apologie des États-Unis comme étant le meilleur pays au monde avec le meilleur système au monde qui est pas du tout accessible à tout le monde et tu sais puis chez nous faut aussi se rappeler que bon chez nous aussi on a des discussions par rapport au système public c'est-à-dire et depuis 20 ans il y a eu des coupes majeures alors j'ai fait l'exercice de penser je me suis demandé et si on n'avait pas coupé tout ça et si on n'avait pas fait toutes ces coupes là dans le système de la santé depuis 20 ans est-ce qu'on s'en sortirait encore mieux? T'sais, ça va vraiment, je pense que ça va alimenter nos réflexions politiques et sociales pour très longtemps après, du moins je l'espère.
Martin, t'es un ancien militaire, OK? Et là, il est question de la fameuse, on a beaucoup parlé de la loi des mesures d'urgence. Il y a des gens qui ont peur en ce moment qu'on déploie l'armée dans les rues. Où t'es, toi, par rapport à ça?
Ben, c'est drôle que t'en parles parce que tu vois, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, il y a une photo qui a été prise sur le boulevard des Carrés, là, d'un véhicule militaire qui circulait sur le boulevard. Puis évidemment, ben, tu sais, on l'a vu un petit peu en 2012 aussi pendant la grève étudiante. Dès qu'on voyait un camion vert en ville, là, on pensait que la loi martiale avait été décrétée.
Mais on est très échaudés par rapport à ce qui s'est passé.
Ben, et avec raison, on va suivre les 50 ans de la crise d'octobre dans quelques mois. Mais où est-ce que je me situe là-dessus? T'sais? L'armée, elle aurait une capacité d'intervention. On l'a vu pendant la tempête du Verglas, on l'a vu depuis 2011.
Ils peuvent aussi aider les gens, là, pas juste les restreindre.
Il y a eu des épisodes d'inondation là, dans les 6-7 dernières années. Quand l'armée, parce que l'armée a une capacité de déploiement extrêmement rapide, de par sa structure, de par l'expertise de ces gens. Ça pourrait être une option envisagée. De toute façon, dans le point de presse d'aujourd'hui, M. Legault, bon, qui n'a pas le pouvoir de recourir à l'armée par lui-même, a dit que dans ses discussions avec le premier ministre Trudeau, ben c'était pas encore envisagé parce qu'on voulait pas aller jusqu'à ce qu'il appelle bon la loi des mesures d'urgence. Mais moi, j'irais pas voir, par exemple, des équipes médicales sur le terrain pour assister, pour venir en aide au système public, installer des hôpitaux de campagne, etc., etc. Ça, pour moi, ce serait une belle contribution. Puis, mais on s'entend que bon, l'armée, c'est une institution qui nous coûte relativement cher au pays. C'est un poste de dépense assez important, donc ça pourrait être là, qui pourrait être mis à contribution. Bon, pour l'instant, de ce que j'en sais, il y a toujours des plans de contingence là, qui sont en place.
Oui, mais pour l'instant, on mise sur la bonne foi et la collaboration des citoyens. C'est ce qu'on a tenu à marteler au niveau des deux palais de gouvernement. Martin Forgues, merci beaucoup de nous avoir parlé. Journaliste, auteur indépendant. Ça passe vite en bonne compagnie. On se retrouve très, très bientôt. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Mario Dumont et Vincent Dessureau suivent dans quelques instants. Merci d'avoir écouté Les Effrontés.